Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'élection présidentielle en Turquie aura lieu dans quelques jours. Dans cette perspective, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, qui est favori du scrutin, a lancé une vaste offensive contre le mouvement Gulen, qu'il avait pourtant aidé à conquérir le pouvoir en 2002. Mais les liens ont été rompus entre l'homme politique et l'influente confrérie, accusée désormais de vouloir renverser l'ordre constitutionnel. Une confrérie très implantée également dans les pays d'Asie centrale et aux États-Unis, mais qui semble désormais en perte de vitesse. À suivre également, en lieu et place de la revue de presse croisée, le premier volet d'Alexandre Bucianti consacré aux communautés étrangères d'Égypte, aujourd'hui la communauté des Levantins. Quant à Michel Paul, malgré la situation très tendue en ce moment entre Israël et les territoires palestiniens, il a choisi de nous parler de façon décalée des moyens de se déplacer à Tel Aviv, la ville israélienne qui ne dort jamais. En vedette, le vélo électrique.
Orient Hebdo sur RFI.
Le pouvoir turc a lancé au début de l'été une vaste enquête judiciaire contre le mouvement Hizmet, fondé par Fethullah Gulen et plus connu sous le nom de Mouvement Gulen. Il faut replacer cette offensive judiciaire du gouvernement dans le cadre de l'élection présidentielle en Turquie, dont le prochain tour doit avoir lieu le 10 août, à la fin de la semaine prochaine. Ultra favori de cette élection, l'actuel Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, entend ainsi se débarrasser d'un allié de longue date qu'il considère désormais comme encombrant. Pour parler du mouvement Gulen et de son influence en Turquie, nous sommes en ligne depuis Washington avec Behram Balsi. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur invité à la fondation Carnegie Endowment for International Peace. Vous êtes également membre du comité éditorial de la revue Les Cahiers d'Asie centrale et vous avez publié en 2003 Missionnaires de l'islam en Asie centrale, les écoles turques de Fethullah Gulen. Behram Balsi, rappelez-nous quand a été fondé ce mouvement et surtout dans quel domaine il se développe.
C'est un mouvement qui, comme son nom l'indique, a été créé par Fethullah Gulen, qui est toujours vivant. C'est un homme qui est né en 1938-1940 à l'est de la Turquie. Il a été créé dans les années 60-70. Au départ, c'est un mouvement religieux qui se revendique d'un islam turc, anatolien, séculier, modéré, qui a privilégié dès le départ l'éducation, dans le sens où ils ont essayé de favoriser la réussite des enfants pour pouvoir les aider à monter dans l'échelle sociale. Mais c'est un mouvement qui est au départ religieux, mais qui est beaucoup plus complexe que cela. Au fur et à mesure de son développement, il s'est aussi intéressé à d'autres disciplines. Il a commencé à occuper une certaine place dans ce qu'on pourrait appeler la société civile en Turquie. C'est devenu un mouvement beaucoup plus social, qui s'intéresse aux médias, à l'université, à l'éducation, dans l'entreprise. C'est aussi une mouvance qui s'est aussi intéressée au domaine de la petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire que le mouvement du Fethullah Gulen est devenu puissant dans le sens où son leader, son gourou, a réussi à créer une certaine conciliation entre la réussite économique et la foi islamique. Donc en cela, ça a beaucoup contribué à son renforcement en Turquie. C'était une mouvance qui, à partir de 1989-90, et ça c'est une date charnière dans son évolution, parce que 89-90 c'est la fin de l'Union soviétique, et c'est aussi l'ouverture d'une nouvelle possibilité, d'un nouvel espace d'influence pour la Turquie, et c'est ce qui a fait leur force. Ils se sont développés dans l'ex-URSS, donc au Caucase, en Asie centrale, dans les pays balkaniques, où ils ont apporté des services éducatifs de qualité, mais aussi une certaine influence économique. Et je pense que c'est ce qui a surtout contribué à l'accroissement, au renforcement de la mouvance, aussi bien en Turquie que sur la scène internationale.
C'est une congrégation religieuse, en quelque sorte, un peu sur le modèle des jésuites chez les chrétiens ?
En fait, dans les travaux que j'ai fait sur eux, c'est effectivement à la mouvance jésuite que j'avais comparé, parce qu'effectivement, il y a une priorité qui est donnée à l'éducation, qui englobe, totalisante, c'est-à-dire que les enfants sont encadrés constamment, non seulement à l'école, mais aussi en dehors de l'école. C'est une éducation élitiste, mais la comparaison avec le phénomène jésuite se justifie dans la mesure où il y a aussi un certain goût pour l'influence, le pouvoir, voire l'infiltration. Et il y a aussi ce côté un peu duel qu'on trouve aussi chez les jésuites, c'est-à-dire que un côté généreux, ouvert, humain, humaniste, mais en même temps aussi une face un peu mystérieuse, un peu cachée, qu'on a du mal à interpréter en fait.
Alors en 2002, le mouvement a soutenu le mouvement AKP du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, et ce qui a permis d'ailleurs à ce dernier de conquérir le pouvoir. Qu'est-ce qui rapprochait à l'époque ces deux mouvements?
D'abord, pour dire que cette mouvance, depuis le début, elle a toujours une attitude un peu ambivalente vis-à-vis du politique. Mais pour ce qui est de l'AKP, à partir de 2002, quand ça arrive au pouvoir, la mouvance de Fethullah Gulen soutient ce parti politique pour toute une réseau de raisons. D'abord parce que, aussi bien la mouvance de Gulen que le parti AKP, ils ont la même base sociale, c'est-à-dire que les Turcs et les soutiens sont à peu près les mêmes, ils ont le même profil social, ils sont musulmans modérés, ils sont issus de l'Anatolie populaire. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi un intérêt stratégique, c'est qu'aussi bien le AKP que la mouvance de Fethullah Gulen, pendant longtemps, ils ont été mis en difficulté, inquiétés, parfois arrêtés par l'establishment kémaliste en Turquie, qui est incarné par l'armée et par les élites kémalistes. Donc si vous voulez, il y avait cette alliance commune qui était favorable, enfin utile pour les deux côtés, qui a fait qu'en fait, ils ont travaillé ensemble, dans le sens où, politiquement, le AKP a pu protéger la mouvance de Fethullah Gulen. Et la mouvance de Fethullah Gulen, étant donné qu'elle est très influente dans le milieu des médias, des journaux et dans le domaine de l'éducation, elle a aussi de son côté fait la promotion de la politique et des réformes de l'AKP. Et cette bonne cohabitation, si vous voulez, cette alliance naturelle, il y a eu quelques crises au niveau, aussi bien au niveau de la politique intérieure que extérieure, mais globalement elle a marché, mais en 2013, elle a volé en éclats pour une multitude de raisons.
Alors justement, qu'est-ce qui peut expliquer ce divorce entre les deux mouvements, Gulen et celui et l'AKP ?
Le divorce, si vous voulez, c'est un peu une histoire de couple en fait, c'est que tout dépend à qui vous posez la question. Si vous posez la question à Erdogan, il vous dira en fait que cette mouvance est devenue un obstacle à son pouvoir, et qu'il dit « moi j'ai été élu par le peuple », ce qui est vrai. Or, cette mouvance est devenue tellement influente qu'en fait, elle devient un obstacle à son pouvoir. Dans le sens où, effectivement, la mouvance, on le sait, elle cherche à être influente, elle met la pression sur le gouvernement pour avoir des postes à des gens qui sont importants, etc. Pour ce qui est de la mouvance, elle va dire que le Premier ministre turc est devenu tellement autoritaire que nous, on ne peut plus le soutenir. Je pense que le fond du problème, c'est qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la raison d'être de cette alliance entre les deux était le fait qu'ils avaient un ennemi commun. Mais à part du moment où cet ennemi commun, c'est-à-dire l'armée et l'establishment kémaliste, ont été considérablement affaiblis. Et si vous voulez, à part du moment où il y avait plus cet ennemi commun, je dirais que le divorce était devenu quelque chose de tout à fait prévisible, naturel, normal, presque inévitable.
Orient Hebdo sur RFI.
Behram Balsi, alors la réalité des accusations portées contre le mouvement Gulen aujourd'hui, quel est-il ?
Alors, selon le Premier ministre turc, il y a une espèce d'état parallèle, que en fait cette mouvance, elle constitue un monde, un état parallèle qui devient un obstacle au fonctionnement démocratique du pays. Alors, bien évidemment, les gens de Fethullah Gulen, ils vont dire que c'est faux. Mais comme toujours, je dirais que la réalité est un peu beaucoup plus complexe. C'est un fait qu'il y a dans l'administration, dans les administrations turques, de la procurature, de la police, il y avait, jusqu'à une période récente, des gens qui étaient, tout en étant fonctionnaires, ils étaient, à mon avis, beaucoup plus soumis, ils recevaient davantage leur ordre de leur gourou que de l'administration, pas de leur supérieur hiérarchique. Donc si vous voulez, dans les accusations, quand le Premier ministre les accuse d'avoir infiltré l'État, il sait de quoi il parle. Je rajouterai aussi, c'est qu'en fait, pour la mouvance du Fethullah Gulen, c'est aussi un moyen de se protéger. Et c'est le drame de la démocratie en Turquie, c'est qu'en fait, toutes les mouvances religieuses qui cherchent à être actives, elles sont obligées de procéder à cette infiltration pour aussi se protéger contre l'armée qu'ils ont toujours observée de très près.
Diriez-vous que le mouvement Gulen aujourd'hui est en perte de vitesse ?
Oui, c'est un fait. C'est un fait. Parce que ce qui faisait la force de ce mouvement, et ça je pense que les gens de la mouvance l'oublient un peu, ce qui faisait sa force, c'est que pendant longtemps, cette alliance, c'était quelque chose qui était vraiment très en leur avantage, c'était très favorable pour eux, parce que à l'étranger, en Turquie, le fait d'avoir bénéficié du soutien politique de cette mouvance leur a permis de se renforcer. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qui s'est passé au mois de décembre dernier, on a vu la mouvance de Fethullah Gulen en bataille acharnée contre le gouvernement. On a vu à quel point elle était capable de stabiliser un Premier ministre qui était pourtant politiquement puissant, qui était venu au pouvoir avec des élections largement, facilement gagnées. Donc si vous voulez, tout cela a montré une partie du vrai visage de la mouvance de Fethullah Gulen. Et quelque part, on a vu à quel point elle était, un, infiltrée, deux, elle faisait de l'entrisme. Et je pense que c'est quelque chose qui est maintenant su. au plan international, parce que la bataille qui a lieu entre le gouvernement et cette mouvance en Turquie, elle a été couverte par les médias du monde entier. Et je pense que dans tous les pays où il est assez bien implanté, on a les centrales ici, aux États-Unis, elle est très importante, dans le Caucase, en Europe, je pense que quelque part, son image a été considérablement ternie.
Un mot, Behram Balsi, concernant l'élection présidentielle proprement dite. Monsieur Erdogan sera opposé à un candidat de poids, Ekmeleddin İçanoğlu, ancien secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Quelles sont les chances de ce dernier, selon vous?
D'abord, je dirais que moi, j'ai été surpris par l'opposition, qu'elle décide de nommer quelqu'un comme lui. Je pense que ça a été une surprise, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une bonne tactique, c'est une bonne stratégie, parce que c'est quelqu'un qui est connu pour être un bon diplomate, sage, raisonnable, qui est respecté sur la scène internationale, notamment au Moyen-Orient, parce qu'il a dirigé l'Organisation de la coopération islamique pendant de longues années. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais que ce qui fait la faiblesse de ce candidat, c'est que malheureusement pour lui, il se défend, il se bat pour des partis politiques dont il ne défend pas l'idéologie habituellement. Donc ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est qu'en fait, c'est un homme qui est tout sauf politique. Et c'est un diplomate, il a une carrière internationale brillante, il parle très bien l'anglais, très bien l'arabe, il parle, je crois, aussi le français. Mais c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience en politique. Et face à Erdogan, qui est un géant en politique, qui a l'habitude de la scène politique en Turquie, parce que ça fait 20 ans qu'il en fait, je n'aurai pas beaucoup de chance, malheureusement. Et enfin, je dirais aussi que je pense que le parti pro-kurde aura probablement un rôle clé à jouer, parce que en cas d'égalité entre Erdogan et Ekmeleddin İçanoğlu, je pense que le parti pro-kurde aura un rôle d'arbitrage à jouer. Et en cas d'arbitrage, je pense que la préférence de ce parti pro-kurde ira plutôt pour Erdogan, parce que Erdogan est un homme en mesure d'apporter une solution à la question kurde en Turquie. Et de ce fait, je pense que Erdogan a de bonnes chances de gagner les élections en Turquie. Maintenant, la question de savoir ce qu'il va les gagner au premier ou au deuxième tour.
Merci Behram Balsi, chercheur invité à la Fondation Carnegie Endowment for International Peace à Washington, spécialiste de la Turquie et du mouvement Gulen.
Je vous en prie.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Premier volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Aujourd'hui, les Levantins ou les Chawam, comme on les appelle dans la vallée du Nil. Une des plus anciennes communautés étrangères d'Égypte, puisqu'elle remonte au pharaon Alexandre Bouchanti.
Oui, au moins jusqu'à Ramsès II, il y a près de 3300 ans. À l'époque, le grand pharaon signe un traité de paix avec les Hittites, qui occupaient l'actuelle Syrie, et épouse une de leurs princesses. Alors, de nombreux Hittites viennent s'établir en Égypte, dans la vallée du Nil, et au cours de cette période aussi, les Phéniciens qui habitent l'actuel Liban fondent des comptoirs commerciaux en Égypte. Plus récemment, de nombreux Levantins s'établissent dans la vallée du Nil après la conquête de la Palestine, Syrie, Liban par Mehmet Ali, le vice-roi d'Égypte. Et il y a ensuite la vague de 1915 qui comprend principalement des chrétiens qui fuient les persécutions des Turcs. Et en 1948, il y a les Palestiniens qui fuient la création de l'État d'Israël. Et il y a une nouvelle vague entre 58 et 61 avec l'union entre l'Égypte et la Syrie. Et puis la dernière vague qui est toujours en cours, celle des Syriens qui fuient la guerre civile.
Alexandre, quelle a été l'influence de cette communauté sur l'Égypte ?
Alors, une influence énorme, c'est elle qui, dès le 19e siècle, a servi de trait d'union entre le pouvoir, composé en majorité de Turcs, les Européens et les Égyptiens. Un Levantin qui se respectait parlait arabe, turc, grec, français, anglais et italien. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient aussi eu une énorme influence sur la culture égyptienne et la modernisation de la langue arabe. Ce sont les Levantins qui ont aussi fondé la plupart des grands journaux égyptiens. Le premier numéro du journal Al-Ahram, fondé par Selim et Bishara Takla, est apparu le 5 août 1876, il y a exactement 138 ans. Le monde du théâtre et du cinéma doit aussi beaucoup aux Levantins.
Et où en est cette communauté aujourd'hui, Alexandre ?
Alors, la plupart des Levantins se sont fondus dans le tissu social égyptien, mais beaucoup d'entre eux ont quitté l'Égypte dans les années 60, après les nationalisations de Nasser. Ils se sont établis en Europe et surtout aux États-Unis et au Canada. Certains y ont fait fortune. Beaucoup de ceux qui sont restés en Égypte sont dans les affaires. Mais aujourd'hui, il y a quelque 200 000 nouveaux arrivants avec les événements en Syrie. Parmi eux, il y a ceux qui ont des économies, de l'argent, et ceux qui sont arrivés uniquement avec leurs vêtements sur le corps. Résultat, les riches ont fait surtout des restaurants où ils font travailler leurs compatriotes. Mais beaucoup restent dans le besoin et les plus pauvres sont réduits à la mendicité ou à la traite de blanches.
Les Levantins, ou les Chawam, comme on les appelle dans la vallée du Nil. Merci, Alexandre Bouchanti.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say hey man. Shark was never my scene and I don't like Star Wars. You say roll, I say Roy, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Et maintenant, nous prenons la direction de Jérusalem, où nous attend Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
Cette semaine, Michel, nous parlons de mobilité dans les rues de Tel Aviv. Rien à voir avec les menaces des roquettes en provenance de Gaza. On parle là des petits tracas de la vie quotidienne, Michel.
Eric, se promener dans les rues de Tel Aviv relève récemment de l'exploit. La raison en est toute simple, de petits bolides qui filent à toute allure sur les trottoirs souvent étroits de la ville. Et oui, dans la métropole israélienne, la bicyclette est reine. Depuis plusieurs années, un système de deux roues de location a été mis en place, tel le Vélib à Paris. Mais attention, c'est le vélo électrique qui est plus particulièrement prisé par les jeunes et moins jeunes tel-aviviens. Et d'autres engins aussi du même acabit, tels des trottinettes, elles aussi dotées d'un moteur électrique. Et tout ce petit monde se déplace dans les rues de la ville, sur les voies cyclables, mais surtout sur les trottoirs. Les accidents sont nombreux, les victimes sont surtout des personnes âgées.
Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, est connue pour ses problèmes de circulation.
Il faut dire d'abord que le grand Tel Aviv, la ville et ses banlieues où vivent près de 3 millions d'habitants, la plus grande agglomération du pays, ne s'est pas dotée d'un système de transport en commun digne de ce nom. Non, il n'y a pas de métro à Tel Aviv. La première ligne de tramway devrait être inaugurée dans 5 ans seulement. Il n'y a que des autobus qui ont du mal à se frayer un chemin dans les légendaires embouteillages de la ville. Et en plus, Eric, qui ne fonctionne pas le jour du Shabbat, du vendredi après-midi au samedi soir, à la tombée de la nuit. Alors, quoi de plus pratique que ces petits vélos électriques pour aller à la plage ou dîner avec des amis sans se casser la tête pour trouver une difficile place de parking.
Deux roues électriques pour tous les âges, Michel.
Autre phénomène, le vélo électrique est devenu le moyen de transport des écoliers et lycéens de Tel Aviv. Devant les établissements scolaires, ils sont garés par dizaines. Et à la sortie des classes, c'est par grappe que les adolescents se lancent sur les engins qui souvent sont débridés pour leur permettre d'atteindre des vitesses allant bien au-delà de celles proposées par les constructeurs de ces bicyclettes. Donner un vélo électrique à un enfant, c'est un peu comme lui donner une arme à feu chargée, a affirmé récemment le président d'une association de parents.
Alors, c'est la loi de la jungle sur les trottoirs de Tel Aviv ?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règles. Le 18 mai dernier, une commission de la Knesset s'est penchée sur la question. Un projet de loi a été rédigé qui stipulait l'interdiction pour les moins de 14 ans d'utiliser les deux roues électriques, une limitation de vitesse, le port du casque obligatoire et aussi une réglementation pour l'usage des trottoirs. Les députés se sont finalement séparés sans rien décider. Savez-vous pourquoi, Eric ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'avère qu'il y a un lobby du vélo au sein du Parlement israélien qui a réussi à torpiller le projet. Bientôt, peut-être, il faudra, malgré tout, pour circuler en vélo électrique, une vignette et une assurance.
Merci Michel, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr à la rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons la bataille des Dardanelles pendant la guerre de 14 et ses conséquences sur la région du Moyen-Orient. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI.